les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Aujourd'hui, l'expression « langue de bois » est avant tout utilisée pour désigner la propension de nos hommes et femmes politiques à ne pas répondre aux questions embarrassantes qu'on leur pose. Dans les années 70, encore d'usage récent en France, elle renvoyait au discours officiel de la Russie soviétique. En 1980, dans le deuxième volet d'un entretien avec Anouk Adelman, Marthe Robert analysait ce phénomène qui nous pousse, par pudeur, crainte sociale et en définitive par peur des mots, à dire non-voyant plutôt qu'aveugle, économiquement faible plutôt que pauvre, ou encore aujourd'hui senior plutôt que vieux. Elle mettait en lumière la discordance entre ce langage et la littérature, dont elle rappelait que la vocation première est d'inquiéter. L'autre scène où les vivants et les dieux, Marthe Robert au micro d'Anouk Adelman, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 avril 1980.
Histoire d'une passion, Marthe Robert et les livres. Anouk Adelman, Marthe Robert. La peur des mots.
Tout jargon suppose une idéologie qui, pour une raison ou pour une autre, craint de se faire voir dans une trop grande clarté. L'assainissement ou l'affranchissement de la pensée passe donc nécessairement par le refus critique du jargon, où qu'il soit écrit et parlé. En ce sens, la querelle de mots, si mal vue de la morale commune, n'est pas du tout l'occupation de gens artificiels et tatillons, mais bien le seul combat qu'il vaille peut-être encore la peine de mener.
Se battre pour la défense du langage, cela peut paraître quelquefois assez dérisoire. Il y a d'autres combats à mener, certes. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes loin du temps où l'on pouvait dire « qui tient sa langue tient les clés qui de ses chaînes le délivre ». Aujourd'hui, il semble que le langage nous emprisonne plutôt qu'il ne nous libère.
Chaque fois que je passe devant l'hôtel des Invalides, et c'est souvent puisque j'habite tout à côté, je me demande de quelle façon il aurait été conçu et construit si, en son temps, le mot « invalide » avait été implicitement proscrit du vocabulaire officiel. Sans aller jusqu'à rechercher de mystérieuses correspondances entre l'architecture et les pudeurs de la morale sociale, on peut penser que les remarquables acrobaties linguistiques auxquelles nous nous livrons par respect humain ne sont pas dépourvus de lien avec nos techniques et ce qui nous tient lieu de style. Quoi qu'il en soit de notre peur des mots et des barbarismes qu'elle ne cesse d'inventer, le fait est que pour nous, il n'y a plus ni pauvre, ni vieillard, ni primitif, ni estropié. Nous ne voulons connaître que des économiquement faibles, des personnes du énième âge, des pays en voie de développement et des handicapés. Ce qui contribue sûrement à apaiser un peu la mauvaise conscience collective, bien que les intéressés eux-mêmes n'en soient guère soulagés. Faute de pouvoir nettoyer le monde de ces hontes bien réelles, nous évacuons du moins de notre vocabulaire les idiots, déshérités, misérables et miséreux, bons à tout faire et bons à rien, qui, hier encore, y exhibaient les plaies de l'inférieur, du faible, du taré. Jusqu'à présent, les malades et les morts ont l'air de résister. Il est vrai qu'il n'est pas facile de s'en débarrasser. En somme, poussés par notre délicatesse, nous travaillons à étouffer le scandale d'être en condamnant les mots qui le disent trop clairement à s'effacer devant des mots décents. Mais cette substitution ne traduit pas seulement les bonnes et les mauvaises raisons couvertes par le respect humain. Elle force aussi à constater que le mot, investi magiquement du même pouvoir que son contenu, reste pour nous l'objet d'un culte superstitieux. Nous le croyons toujours capable de déchaîner, ou, s'il est invoqué spécialement à cet effet, de conjurer les forces actives dont il est le signe indifférent. Contrairement à la leçon des linguistes, que nous ne songeons d'ailleurs pas à discuter, nous sommes toujours convaincus intimement que le mot « chien » mort et qu'il peut même devenir enragé. Parler de pauvre expose donc à un double danger. C'est invoquer imprudemment les puissances liées à l'argent contre lesquelles le démuni pourrait fort bien se dresser. Mais c'est aussi attaquer le riche en lui lançant à la tête le symbole explosif de sa situation privilégiée. De là, économiquement faible, un composé lui-même trop faible et trop mou pour qu'il y ait lieu de le redouter. Cela dit, nous n'avons peut-être pas tellement tort de nous en tenir aux lois de cette magie primitive, en dépit de la logique et des remontrances de la théorie. S'ils sont mieux faits pour masquer les réalités gênantes que pour aider à les supprimer, nos euphémismes disgracieux ont cependant le mérite d'épargner aux défavorisés le surcroît d'humiliation que leur valait leur nom. Ne serait-ce qu'en cela, ils représentent bien plus que des vœux pieux, car s'ils n'abolissent pas le passé, rien qu'en le déclarant périmé, ils montrent du moins la direction que la vie veut prendre pour changer. Aussi, bien que leur rôle dans l'évolution des mœurs et des idées soit difficile, voire impossible à apprécier, la morale sociale y gagnera peut-être à la longue ce que le langage et l'esthétique y ont déjà sûrement perdu. L'opération qui ne se fait que grâce à eux ne peut réussir qu'à leurs dépens. Mais qui, maintenant, mettra ce peut-être et ce sûrement en balance? Aucune employé de maison ne fournira jamais de servante félicité à la littérature. De cela, au moins, nous pouvons être sûrs. Mais qu'importe, après tout, si l'euphémisme par quoi la condition servile est implicitement réprouvée doit passer un jour dans les faits. La perte des cœurs simples à venir peut bien laisser inconsolable cela même que la servilité réelle révolte sincèrement. Elle est en effet irréparable dans son domaine exclusif et parfaitement insignifiante au regard de la vie. Cela va de soi, puisque si haut que nous l'estimions, elle n'a de prix que sur les grands livres de la littérature où les contes des vivants ne sont jamais portés.
Si je vous ai demandé de lire ce texte que vous avez écrit dans le livre de lecture, c'est parce que il me semble que cette surenchère ou désenchère sur les mots que l'on fait actuellement est finalement l'envers de cette espèce de révérence superstitieuse qu'on a pour la littérature. On croit aux mots, on en a peur, on s'en méfie, et on est aussi à notre époque, me semble-t-il, atteint d'une sorte de puritanisme. On ne veut plus appeler un chat un chat. Un chat, ça fait peur.
C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui m'a inspiré ce texte, n'est-ce pas? Je suis frappée depuis longtemps déjà, parce que ce mouvement n'est pas si ancien d'ailleurs, mais il remonte tout de même à une douzaine d'années. Il me semble qu'auparavant, on parlait encore de bonnes. Les dames osaient encore dire qu'elles avaient une bonne, n'est-ce pas? Maintenant, elles n'en ont plus. Elles ont des employés de maison, effectivement. Et puis, il y avait des vieillards.
Oui, enfin, vieillards. En argot, on disait mes vieux pour dire mes parents, et on c'était très gentil.
Ça, d'ailleurs, je pense que l'argot garde une supériorité sur le langage, disons, sur le langage officiel, le langage social. C'est épouvantable, le langage dont nous sommes abreuvés de tous les côtés, parce que c'est celui qu'on lit dans la presse, celui qu'on lit dans les journaux, celui qu'on entend partout. L'argot est beaucoup plus sain que ça. C'est beaucoup plus sain de dire mes vieux plutôt que de dire mes quoi, du troisième âge ou du quatrième âge. Enfin, c'est pas possible. Mais c'est un mouvement probablement irréversible, mais qui ne laisse pas de poser tout de même de graves questions. C'est que notre littérature, puisqu'il s'agit de littérature, elle n'est concevable dans le passé, dans son histoire. Elle n'est concevable parce que justement, jusqu'à maintenant, jusqu'à tout récemment, on appelait les choses par leur nom. Il y avait devait y avoir une concordance entre le niveau du vocabulaire employé et le niveau de la chose désignée, n'est-ce pas? Il y avait des termes savants, bien sûr, pour dénommer les objets de la nature, les plantes, les bêtes, etc. Et il y avait les termes vulgaires, comme on disait fort bien, encore une chose qu'on ne dirait peut-être même plus, n'est-ce pas ? La langue vulgaire, je ne sais pas si ça existe encore. Il n'y a qu'une... il n'y a qu'une... je ne sais même pas comment dire. Enfin, le langage commun, le langage, on peut même pas dire courant, car, notez-le bien, n'est-ce pas, ces euphémismes dont je parle dans l'histoire de la place des Invalides, ces euphémismes sont savants ou veulent l'être, car dire économiquement faible, c'est vraiment puiser une expression qui doit être employée à tout moment, dans la vie, dans un vocabulaire sociologique. Ça a sa place dans un vocabulaire sociologique, peut-être, là où on fait des classements, là où on fait des échelles de revenus, des classifications, etc. Mais dans la vie courante, quel sens ça a été pris d'un vocabulaire, disons, de savoir, d'un vocabulaire savant. De sorte qu'il n'y a plus cette spontanéité des mots crus. Les mots étaient crus, c'est ça qui me frappe beaucoup. Et ils sont maintenant recuits. Recuits dans une sorte de sauce faite à la fois de sociologie, de psychologie, de politique, je ne sais pas trop. C'est véritablement un magma de provenances différentes, très difficile à définir. Ça pourrait être un objet, je ne sais pas, pour les linguistes modernes, un objet de recherche. En tout cas, il n'y a plus le mot cru. Évidemment, autrefois, il y avait encore des cul-de-chat, n'est-ce pas ? Cul-de-chat. J'ai oublié les cul-de-chat dans mon énumération. J'ai eu tort. Le cul-de-chat, n'est-ce pas ? C'est absolument extraordinaire. Comment l'idée a-t-elle pu venir de comparer, car ça n'est qu'une image, et il n'y avait pas d'autres mots pour désigner le cul-de-chat. Il n'y avait pas d'autres mots que cette image qui consiste à comparer un être humain avec le cul d'une chatte sans pied. Par conséquent, une chatte n'ayant pas de pied. C'est insensé, si on y réfléchit bien. C'est vraiment une métaphore particulièrement crue et dure. Et pourtant, c'était le seul mot. Il n'y avait absolument rien de méprisant. On l'employait parce qu'il n'y en avait pas d'autre, tout simplement. Et je ne sais pas, le mot est disparu, mais les cul-de-chattes aussi, me semble-t-il. On n'en rencontre plus, n'est-ce pas ?
On les cache.
On les cache, ou bien ils ont des appareils orthopédiques, enfin je ne sais pas, mais on voyait encore autrefois des cul-de-chattes, et il n'y avait pas moyen de les appeler autrement. Je dois dire d'ailleurs que dans mon enfance, j'en étais très choquée, et que je sentais, là, il y avait tout de même dans le cul-de-chat, il y avait quelque chose de pire que dans les Invalides.
Moi, il me semble qu'il y a une relation très étroite entre le langage employé et le monde dans lequel on vit. Parce que, actuellement, quel est le désir de tout pays dans le monde, sur toute la planète, devenir un pays hautement industrialisé ? Or, dans cette mesure-là, on est envahi par la technocratie. Et le dernier des derniers, maintenant, se croit obligé d'employer les termes de la technocratie. D'ailleurs, en ça, il est poussé par la télévision, par la radio, car il entend toute la journée ce langage-là. Et je crois que cette désincarnation du langage qu'on est en train de vivre correspond à la désincarnation de notre vie, car c'est un reflet tout à fait direct.
Mais ça, c'est un autre aspect de ce problème que je n'ai pas moi-même envisagé. Je n'en aurais pas d'ailleurs tellement à la technique en elle-même, voyez-vous, mais bien plutôt au mélange. D'une manière générale d'ailleurs, c'est un mélange indiscernable d'éléments puisés à peu près n'importe où. Mais il n'y a pas que la technologie, il y a aussi les connaissances vulgarisées plus ou moins bien de la psychanalyse, de la psychologie, en un sens, vous avez raison, tout ça c'est toujours de la technique. Donc autrefois, les choses étaient désignées, mystérieusement, on ne sait trop comment, mais par une sorte de rencontre entre un sentiment collectif, il faut bien supposer en tout cas, et la forme ou le sens ou la valeur ou la place qu'on pouvait donner à l'objet. C'est cela qui a disparu complètement. Il n'y a plus de la moindre concordance et le moindre effort pour établir une concordance entre l'aspect, la forme, les propriétés physiques, visuelles ou non de l'objet et cette invention extraordinaire qui était parfois un mot qu'on disait populaire parce qu'on ne sait pas d'où il vient, mais qui avait sa force, qui avait sa sonorité et qui était presque toujours une métaphore. qui n'était pas dérivé de mots latins savants ou quand il n'était pas d'un doublet de mots latins savants. C'est plus souvent des métaphores. Et d'ailleurs, le phénomène est même particulièrement sensible dans le langage dit populaire, qui avait aussi son argot, sa poésie, ces images absolument extraordinaires. Je n'entends plus de ces trouvailles verbales qui étaient de l'argot absolument ordinaire, mais qui semblaient jaillir comme ça d'une sorte d'inspiration. On ne peut pas appeler ça autrement, n'est-ce pas ? Il y avait une sorte d'inspiration poétique, parce que c'est ça finalement la poésie, que je trouve tellement rarement. Quelques autres jours, j'ai trouvé comme ça, d'un coup jaillissant au milieu de ce langage. Vous savez que on parle de langage de bois à propos du langage créé par les officiels russes, les tenants de la littérature officielle en Russie, et qui ont effectivement changé complètement la langue et qui ont non seulement commis des crimes, mais ont encore commis des crimes pendables, absolument pendables contre la langue russe.
Des crimes pendables, certes. Mais quel État, aussi tyrannique soit-il, peut se vanter de museler une pensée et les mots pour la dire? Ce qu'on appelle aujourd'hui un dissident, quelqu'un comme Alexandre Podrabinek par exemple, lui a su utiliser le langage de bois pour le retourner. On ne peut rien contre l'humour.
Monsieur, à l'ère des voyages cosmiques, d'acquis scientifico-techniques remarquables, au siècle de l'édification de la société socialiste avancée et des réalisations grandioses, au moment où le peuple soviétique connaît un niveau de vie sans précédent, alors que les nobles idées d'un enseignement éternellement vivant et invincible font leur chemin et s'imposent triomphalement en cette seconde année du 10e plan quinquennal, à la veille de victoires plus grandes encore, des insuffisances, certes isolées mais hélas néanmoins existantes, assombrissent le merveilleux tableau de la félicité générale dans laquelle vit notre peuple. Il est particulièrement pénible de constater que ces insuffisances affligent l'activité d'un établissement aussi puissant et omniprésent que le Comité de la Sûreté d'État auprès des Soviets des ministres de l'URSS. Plus pénible encore est de constater que la victime de ces insuffisances, c'est moi. Je m'explique. Depuis le 10 octobre de cette année, je me trouve sous la surveillance permanente et manifeste de nos glorieux tchéquistes. Je comprends que pour défendre les intérêts de la sûreté, le KGB ait pour seul recours de perquisitionner chez moi, de m'assigner comme témoin dans l'affaire Yuri Orlov, de me proposer d'aller voir de l'autre côté de la frontière soviétique, de se livrer au chantage, d'attenter à la vie de mon frère et d'entreprendre beaucoup de choses encore pour éviter que, par hasard, je fasse sauter les fondements de l'État et du régime soviétique. Je comprends tout cela. C'est d'autant plus regrettable que la direction du comité ne manifeste pas à leur égard le souci qu'ils méritent et les contraignent à violer mes droits stipulés dans l'article 41 de la Constitution de l'URSS récemment adoptée. Cet article proclame « Les citoyens soviétiques ont droit au repos ». Ainsi, en parfait accord avec l'article 41 de la Constitution soviétique, ce dimanche 18 décembre, six de mes amis et moi-même avons décidé d'aller faire du ski près de Moscou, dans la région d'Orekhov-Borisov. Ni l'absence de graisse pour ski, ni le temps chaud, ni la neige molle n'avaient pu nous arrêter. Le KGB, lui, sut le faire. Plus exactement en ce qui me concerne. Il s'est avéré que vos collaborateurs n'avaient pas de ski. J'ai eu beau les assurer que je ne skiais jamais à plus de 60 km à l'heure et que ce n'est pas aujourd'hui que j'allais essayer d'échapper à leur tendre tutelle, ils ne m'ont pas laissé essayer la piste. Et puis, il y a encore une chose qui m'oppresse. Si jamais ma lettre résonne dans l'espace, transmise sur les ondes d'une de ces radios qui nous vouent une hostilité désespérante, comme par exemple la BBC, la Voix de l'Amérique, l'Onde allemande ou même Radio Liberté, alors les cœurs de 250 millions de ressortissants soviétiques s'empliront de sang à force d'amour et de compassion envers vos collaborateurs qui n'ont ni ski, ni bottes, ni attaches parce que vous ne trouvez pas d'argent pour eux. Pour que cela n'arrive pas, je vous demande une nouvelle fois instamment de leur fournir tout l'équipement nécessaire. En le faisant, vous vous attacherez la reconnaissance de millions de personnes. Ayez pitié de vos collaborateurs et faites que puissent se reposer les citoyens soviétiques dont ils ont la charge. Avec toute ma compassion et ma compréhension sincère, Alexandre Podrabinek.
On peut souhaiter que les autorités soviétiques soient enfin sensibles à l'humour. On peut aussi se réjouir de n'avoir pas à subir en France l'omniprésence d'un langage de bois.
Eh bien, je dirais que là, nous n'avons pas à être tellement fiers, parce que jusqu'à un certain point, nous avons aussi une langue de bois. Elle n'est pas née pour les mêmes raisons, ni des mêmes circonstances, elle n'est pas non plus exploitée dans le même sens, bien sûr, et heureusement, mais par un certain côté, nous commençons à avoir une langue de bois. Et c'est ça, si vous voulez, qui, au fond, est le plus triste dans tout ça. Ce mot de langue de bois est d'ailleurs merveilleusement trouvé, c'est Solzhenitsyn qui l'a inventé, et je crois bien, malheureusement, que ça s'applique, plus ou moins, à toutes nos langues occidentales.
Quand vous parlez de ce langage de bois qui est maintenant notre langage officiel et qui tend à devenir notre langage quasiment quotidien, on a un peu l'impression qu'avec les mots se passe ce qui arrive en ce moment avec tous les actes de notre vie. On est coupé de nos racines et ce qui fait tellement floresse avec l'écologie en fait existe exactement aussi avec le langage. On n'a plus de racines avec le langage, on a perdu notre terroir.
Oui, oui, je le crois aussi. Parce que ce qui a été chassé, justement, de notre vocabulaire quotidien, ce sont justement, au sens propre du mot, les racines. Puisqu'au fond, ce langage infiltré de théories, infiltré de techniques, infiltré de toutes sortes de savoirs, plus ou moins hétéroclites, ce langage-là n'a plus de racines sensibles, si vous voulez. Je ne sais pas, enfin, quand on disait « pain », le mot « pain » fait image, n'est-ce pas? Mais tous les adverbes que l'on accole maintenant aux mots pour leur ôter justement leur virulence, pour leur ôter leur crudité, eux sont déracinés. C'est vrai qu'il y a un déracinement du langage actuel, dû à toutes sortes de facteurs très très complexes probablement. Et là, il y a une question qui se pose, n'est-ce pas, que moi je me pose. Il semble pourtant que les générations actuelles, les jeunes, plus ou moins vieux d'ailleurs, n'est-ce pas, c'est pas absolument une question d'âge, mais tout de même dans un certain cadre d'âge. Il semble pourtant qu'ils s'intéressent tout autant qu'autrefois à la littérature du passé, et même plus probablement, et même plus parce que les gens qui avaient 20 ans, par exemple, en 1930 ou en 1935, bon, ils avaient des œuvres considérables qui naissaient sous leurs yeux, qui étaient de leur temps et qui étaient fabriquées, si j'ose dire, avec le même matériel verbal, sublimé, mais tout de même le même matériel verbal que celui qu'ils utilisaient dans leur vie quotidienne, n'est-ce pas? Il n'y avait pas une coupure radicale, il n'y avait pas un autre terrain qui nourrissait les mots. Ils pouvaient se retrouver, et puis il y avait de grandes œuvres, et mon Dieu, la littérature était vivante, elle était actuelle. Je ne sais pas, aujourd'hui, plus ces grands coups qui ont été frappés, comme ça, par exemple, entre les deux guerres, n'est-ce pas? C'est formidable quand on se souvient du nombre de choses importantes qui ont paru à cette époque. Des chefs-d'œuvre, on dit. Des chefs-d'œuvre, ça paraît toujours être du passé, n'est-ce pas? Mais il y a eu une génération pour qui les chefs-d'œuvre étaient actuels. Il ne faut pas l'oublier.
Marcel Proust. Georges Bernanos. François Mauriac. André Gide. Jean Giraudoux. Louis-Ferdinand Céline, André Malraux. Marcel Aimé. André Breton. Antonin Artaud.
Sont vraiment du passé. Et je me demande justement, si étant donné cette discordance qu'il y a entre ce que j'appelais tout à l'heure la langue de bois, parce que je ne sais pas mieux le définir, et les trésors de la littérature, pour parler de la façon la plus conventionnelle, je me demande alors comment les gens lisent les choses du passé. Et parfois, je me pose la question, est-ce qu'ils n'y trouvent pas un tout autre intérêt que celui que nous imaginons, que celui que nous avons pris, précisément du fait de l'insolite de ce langage qui ne correspond plus au leur, qui n'a pas été créé dans un même monde grammatical, avec la même raison syntaxique. C'est très très important. On ne fait plus les phrases aujourd'hui, on ne fait plus les phrases aujourd'hui comme on les faisait il y a 30 ans.
Le déclin du langage est apparemment un phénomène chronique de l'histoire qui suscite les mêmes plaintes à chaque génération. Celui auquel nous assistons maintenant obéit sans doute à la loi générale. Il a pourtant ceci d'original qu'il s'accomplit au milieu d'une fantastique surestimation du langage en tant qu'objet de spéculation, de sorte qu'il est accéléré par cela même qui semblerait devoir, sinon l'arrêter tout à fait, du moins le ralentir un peu.
Ce ne sont pas tellement les idées qui ont changé, là, si vous voulez. Ce ne sont pas tellement les changements non plus des mœurs. Mais c'est vraiment le langage qui, maintenant, se constitue, me semble-t-il, sous l'influence de facteurs tout de même très artificiels. Peut-être le langage est-il toujours une formation artificielle. Jusqu'à un certain point, c'est vrai, bien sûr. Mais là, il me semble que l'artifice prime tout. Car finalement, cette langue que j'ai appelée de bois, faute de mieux, elle vient tout de même d'ailleurs. Elle vient des voix que l'on entend à la télévision, à la radio. Elle vient de toutes sortes d'intermédiaires qui ne l'ont pas non plus voulu ni pensé et pour qui elle ne correspond pas non plus à un besoin absolument pressant. C'est simplement une commodité. C'est simplement, disons, une manière d'aller pas plus vite, puisque généralement d'ailleurs les phrases sont plus longues et plus compliquées, n'est-ce pas ? Mais une manière de se faire entendre, tout simplement. Ça réduit le langage à une communication immédiate qui ne supporte plus beaucoup, ou moins qu'autrefois en tout cas, de ces résonances, de ces notes secondaires qu'on pouvait entendre dans les mots les plus simples. Dans ces conditions, étant donné toute notre littérature passée, et jusqu'à un certain point malgré tout, la littérature actuelle qui continue à employer relativement de vrais mots, et dans la mesure où elle emploie encore de vrais mots, il me semble qu'il devrait y avoir un hiatus de plus en plus grand entre ce langage instrumental dont je parlais et celui de la littérature. Non pas seulement parce que celui de la littérature, par définition, n'est pas instrumental, mais parce que les mots les plus simples qui étaient employés autrefois, sans qu'on y pense et sans qu'on se pose de questions à ce sujet, paraîtront paris d'une sorte d'auréole incompréhensible, deviendront mystérieux. Je ne peux vraiment pas imaginer une littérature dans laquelle un héros serait non-voyant. Vous comprenez, je ne peux pas tout simplement l'imaginer.
Mais il me semble que ce que vous venez de dire correspond à une chose très grave de notre époque, c'est la peur. On a peur. Or, l'aventure individuelle humaine, ça fait très peur. Et on veut masquer tout le contenu explosif qui est dans chaque individu. On a peur de ce qu'il y a dans une personne. Et par conséquent, on l'insère dans des choses techniques. Ça fait moins peur. Un aveugle, c'est terrifiant. Un non-voyant, c'est assisté par la sécurité sociale.
Mais oui, bien sûr, je sais bien que c'est pour se rassurer, mais c'est quand même une drôle de manière de se rassurer. Et puis, même si c'est une manière de se rassurer, ce qui est probable, là encore, ça entre absolument en conflit avec la vocation essentielle de la littérature, qui elle est faite pour inquiéter.
Autant que la littérature d'aujourd'hui refuse de continuer à se raconter des histoires, il semble qu'elle prenne enfin le dilemme au sérieux et qu'en cela, au moins, elle témoigne d'une certaine santé. Mais si elle rejette à bon droit les croyances superstitieuses qui, jusqu'à présent, étaient ses plus fortes alliées, il ne s'ensuit pas qu'elle y gagne un pouvoir mieux défini et une position plus solidement fixée. Car à ne plus vouloir se raconter des histoires, on est conduit logiquement à ne plus raconter d'histoire du tout, c'est-à-dire à priver le récit non seulement de son principal attrait, mais du pouvoir de suggestion qui, en fin de compte, est sa seule raison d'être écrit.
Si raconter des histoires, si se raconter des histoires devient une chose impossible, si la forme prime le contenu, si aujourd'hui on n'attache plus d'importance à la structure, comme on dit, d'un récit qu'à ce qu'il raconte, c'est peut-être que notre monde s'est complètement désincarné. Mais cela voudrait peut-être aussi dire que dans ce cas, toute littérature est pratiquement impossible.
C'est bien un petit peu mon idée, pour autant qu'on puisse se risquer à faire des prophéties, ce qui est toujours ridicule, je ne prophétise rien du tout pour l'avenir, mais je disais tout à l'heure qu'on n'employait plus de mots crus, mais un vocabulaire recuit. Et ce n'est pas vrai, parce qu'il y a quantité d'autres domaines, ou alors, au contraire, le langage le plus cru, qui autrefois était absolument proscrit, disons, dans un langage public, est devenu, au contraire, tout à fait naturel. Ouais, longtemps qu'on a supprimé les trois points, vous savez, les trois petits points, ça n'existe plus. Ça, c'est bon, je crois que c'est aussi une évolution qui est probablement irréversible. Beaucoup plus intéressant de ce point de vue me paraît être la pudeur sociale ou la crainte sociale qui se traduit justement dans les euphémismes comme non-voyant pour aveugle, etc. Parce que, en ce qui concerne par exemple la sexualité, toutes les affaires du corps, quelles qu'elles soient, là au contraire, la crudité est presque de rigueur. Il semblerait même déplacer de l'atténuer. C'est très étrange que d'un côté, il y a ce langage recuit qui n'a plus de saveur, qui n'a plus de sève, si vous voulez. C'est un langage desséché, un langage qui s'est calqué, au fond, sur ce qu'il y avait de pire, dans celui de la bureaucratie, n'est-ce pas, de tout temps, ou du droit, ou de la médecine, ou vraiment, enfin, tout ce qu'il y avait de plus désespérant, disons tout ce que le langage avait pu donner de triste comme excroissance spécialisée. C'est ça qui est très très curieux. Il y a un déplacement, en somme. Le cuit se trouve là où autrefois, justement, on avait son franc-parler. Et maintenant, le franc-parler n'existe plus, alors que, au fond, dans l'ordre le plus matériel, d'ailleurs le plus charnel. Mais c'est très intéressant en ce qui concerne la littérature, puisque la littérature est notre sujet. Là, ça a des conséquences très graves. Car la littérature, la grande littérature, celle qu'on est convenu d'appeler comme ça, elle est grande justement dans la mesure où elle traite toujours, en gros, la littérature romanesque, des rapports, c'est-à-dire du conflit entre l'individu et le monde. Toute grande littérature a pour sujet essentiel, pour obsession, si vous voulez, cette situation éternelle, sous toutes les différentes formes qu'elle peut prendre, de l'individu dressé contre le monde ou du monde dressé contre l'individu.
Quand vous me dites que la littérature, la grande littérature du XIXe siècle, n'a jamais fait autre chose que d'exprimer ce conflit entre l'homme et le monde, on est bien forcé de dire que la littérature d'aujourd'hui n'aurait pas autre chose à faire non plus, car c'est toujours de ça qu'il s'agit.
Bien entendu, il n'y a pas d'autre sujet. Et même, je parlais tout à l'heure des œuvres qui suivent la tradition épique, et en réalité, c'était déjà la même chose. L'individu face au Dieu, c'est pareil. Et dans cette entreprise de description d'un combat essentiel qui peut se terminer à l'avantage du monde ou à l'avantage de l'individu, selon les écoles, selon les présupposés spirituels ou sociaux de politique de chacun, il est évident qu'on ne peut se permettre aucun égard, aucun ménagement. La grande littérature romanesque ne ménage personne. Elle est par définition cruelle, cruelle, crue. Mais crue, justement, pas dans ce sens où nous l'entendons aujourd'hui, par exemple en ce qui concerne la sexualité, en ce qui concerne les rapports purement charnels ou même pervers, n'importe quoi, des êtres entre eux. Car cela, ça fait partie, disons, pour la littérature romanesque traditionnelle, ça fait partie du combat humain en général, n'est-ce pas? C'est un aspect très important, naturellement, puisque toute littérature romanesque est toujours érotique par un certain côté, mais ça n'est qu'une partie du combat. Ça n'est qu'une partie de ce conflit, par définition, insoluble, impossible à cerner, qui renaît naturellement à toutes les générations, qui renaît dans chaque société, à l'Occident, bien entendu. Dans notre société occidentale, n'est-ce pas? Ailleurs, c'est une autre affaire. Donc, le déplacement de la crudité du regard social sur le regard purement sexuel, disons, va dans le sens contraire de la grande littérature romanesque, vous voyez? Alors, naturellement, il peut toujours y avoir une littérature qui aille à rebours du langage du temps. C'est très possible. Ça peut toujours se produire. D'ailleurs, une grande littérature est toujours faite par un seul écrivain. Il suffit qu'il y en ait un et tout recommence. Donc, toutes les prophéties, là, ne tiennent pas debout. Et il se peut bien qu'un jour, justement, quelqu'un paraisse qui redonne des accents absolument inédits à cet éternel combat de l'individu et du monde, et que pour cela, ou plus exactement qu'il le pourra, parce qu'il aura été à rebours du langage de son temps.
Les plus grands artistes sont ceux qui savent imposer aux hommes une illusion particulière. Maupassant.
Adelman, Marthe Robert. Prise de son, Michel Créis, Jean-Paul Herbert. Mixage, Nicole Dalmar. Avec les voix de Catherine Laborde, Jean-Marie Ferté. Assistante, Nicole Valeron. Réalisation, Christiane Mallarmé.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 avril 1980. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
Condenado, sin compasión me ha sentenciado, en cambio no siento temor, morir de amor.
Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida en contra de mi corazón. Morir de amor es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Eres la luz y en mi anochecer mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor, morir de amor. Si nuestro amor es invencible y ante los hombres imposible, no tengo otra solución. Morir de amor.
Con frente alta y firmes pasos he de vencer este fracaso, disimulando mi dolor.
Morir de amor. Porque se ha de pecar. Adiós al mundo y sus problemas. Adiós a aquel que me conoce.